Est-ce que tu voulais lire?
La prière.
Ah oui, Om Namo
Om Namo
Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Om Namo
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Om
Om
Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya. Jai Srila Prabhupada ki jai.
Jai. Jai.
Alors, Virginie, s'il vous plaît.
Pour en finir avec la vie conditionnée, il faut arriver à comprendre l'urgence de ne plus s'exposer à la vie matérielle, à sachant agir en conséquence. Cette action en conséquence signifie rechercher activement refuge en la compagnie des dévots du Seigneur. C'est cette association qui a pouvoir d'aider à purifier la conscience de quiconque la prend à cœur. Les dévots ont des points en commun, un savoir partagé entourant la relation éternelle de tout être avec Dieu en tant que son éternel serviteur, l'adoption du processus par excellence permettant l'exercice de cette relation, c'est-à-dire le service de dévotion, lequel permet à son tour d'atteindre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sous-entend proportionnellement un non-retour sur le plan matériel. La gratification des sens n'est plus une tentation, mais un rejet automatique volontaire pour l'amour d'une joie supérieure éprouvée dans le cadre du service de dévotion seulement. Ainsi établi fermement dans la conscience de Krishna, un dévot peut vivre n'importe où dans le soi-disant monde matériel, mais sa conscience ne voit que Krishna. Elle est bel et bien rendue ailleurs, c'est-à-dire dans l'atmosphère du pur service de dévotion offert de tout cœur à Dieu, pour rien d'autre en échange que la réciprocation amoureuse du Seigneur avec son éternel serviteur. Il n'est de plus grand bonheur que ça, par comparaison de quoi que ce soit sur le plan matériel.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, c'est assez intense comme texte, ce que je trouve. Et Omagana Timirandasya Gananjana Sadakaya Chaksur Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Alors, il y a une phrase que je trouve intéressante. C'est dit ici. La gratification des sens n'est plus une tentation, mais un rejet automatique volontaire pour l'amour d'une joie supérieure éprouvée dans le cadre du service de dévotion seulement. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Ça, c'est toujours le problème, à savoir est-ce que on est fixé dans notre détermination de servir Krishna, puis qu'on pense juste à ça et on s'engage juste en termes de service de dévotion, ou il y a toujours l'autre volet d'un engagement possible si on se laisse aller justement à la recherche de la satisfaction des sens. Alors, c'est quoi la solution?
La solution, c'est de tout abandonner, de tout offrir à Krishna.
Oui.
Parce que dans ces cas-là, on ne cherche plus sa propre gratification. Tant qu'on est dans... Et je suis pas sortie de l'ornière, hein, je le dis avec... Même si on fait des efforts, même si on fait attention, parce qu'on est dans un monde encore où on est soumis à beaucoup de choses. Et voilà, c'est que c'est... Même si des fois on est conscient qu'il faudrait, je sais pas comment expliquer ça en fait, c'est qu'on sait qu'il faut pas le faire par exemple ou regarder ou mais les sens vont quand même te dire mais non c'est pas grave, c'est comme on disait dans le cours mercredi, c'est
Ouais,
qu'il y a...
exactement.
Et c'est voilà, c'est moi je me c'est me voiler la face de me dire que ça ne m'arrive pas encore, même si ça m'arrive de moins en moins. sur des choses peut-être basiques et qui sont complètement qui n'ont pas d'importance pour ceux qui ne portent pas d'importance au service de dévotion. Mais pour moi, c'est me remarquer que par exemple trouver une jolie paire de chaussures, je dis n'importe quoi, tu vois, mais c'est à me dire, et là avoir le recul de me dire non, en fait, il faut pas c'est pas ça, tu n'en as pas besoin, ça sert à rien, hop, et on tourne la tête et on a déjà oublié la paire de chaussures. Et c'est juste ça, en fait, qui est pour moi le travail d'une vie, en fait. Être conscient qu'on n'est pas là pour jouir de ses sens, mais qu'on est là pour se reconnecter avec Dieu, le Seigneur suprême, Sri Krishna, et que cette connexion, ben, elle se fera pas si on n'est pas dans un amour, tout pour Krishna et rien pour nous, parce qu'en fait, on est temporaire dans ces corps-là, donc, ça sert à rien de s'attacher à des choses qu'on sait qu'on va lâcher, une maison, une famille, un père, une mère, c'est pareil, c'est dans ce même, c'est ça aussi, se gratifier les sens, à passer de bons moments en famille et jouir de ça et être un peu inconscient que quelque part, ce n'est pas éternel, c'est pas ça le sens réel de la vie, de l'existence en fait.
C'est
C'est
une façon de voir. Oui, effectivement, pour la majorité du monde, c'est comme ça. Et cependant, il y a une expérience qu'on peut faire qui est liée à l'adoration des déités. Et ça, par exemple, dans les temples, mettons, quelqu'un qui vit dans un temple, il peut être engagé du matin au soir dans le service de dévotion. Ça, c'est l'opportunité que représente vivre dans un temple, c'est que il peut être engagé. Il y a des classes le matin, il y a des classes le soir, il y a des artis pendant la journée, il y a le prachad en communauté de dévots aussi, à des heures fixes, et puis il y a des services pour le temple. Il y en a qui vont faire de la comptabilité, il y en a qui vont faire disons, nettoyer le temple, passer la vadrouille dans le temple, juste faire la salle du temple. À tous les jours, faut qu'il passe la vadrouille faut qu'il lave cette salle-là, minimum. Minimum. Alors, ça prend un dévot pour le faire. Alors, et un temple, c'est fait pour avoir des dévots dedans. C'est pas normal que, mettons, un grand temple se ramasse avec juste 3-4 dévots pour faire rouler le temple. Comme à Montréal, là, je sais pas combien ils sont, mais à chaque fois que je demande, c'est toujours en diminuant. Alors, non, c'est pas fait. Le concept, c'est pas ça. Le concept, ça prend au moins une dizaine de dévots faciles, si c'est pas plus. Mettons une vingtaine de dévots, ça va, parce qu'il y a, mettons, un temple, c'est 5-6 artis par jour. Et c'est pas vrai que ça va être le même dévot qui va faire tous les artis. C'est pas vrai. C'est pas un même dévot qui va cuisiner toutes les offrandes. Alors, ça prend une équipe, ça prend un groupe de dévots. Et parfois, il peut arriver que, pour une raison ou pour une autre, l'adoration des déités, donc, on prend ça dans un sens large. Parce qu'un temple, ça veut dire ça. Ça veut dire l'adoration des déités. Donc, grosso modo, dans un sens très large. Que tout le monde soit impliqué dans cette adoration-là. Même le dévot qui va faire les achats pour le temple, les achats de nourriture, qui lui fait jamais, mettons, d'adoration des déités sur l'autel, etc. Même lui est engagé dans l'adoration des déités parce que c'est lié à l'adoration des déités. Alors, même des dévots qui, par exemple, comme à la Nouvelle-Mayapur en France, c'est un château qu'ils ont acheté. Et il y a des travaux de réparation à faire qui sont plus ou moins récurrents ou en tout cas des travaux nécessaires. C'est-à-dire des dévots qui viennent pour réparer ou pour, mettons, établir l'électricité dans une pièce ou quelque chose comme ça. C'est tout lié. Ça va dans sous cette banderole-là, service de dévotion, adoration des déités, c'est tout lié. Alors, des fois, il peut arriver qu'un dévot se ramasse avec tout un fardeau sur le dos parce qu'il n'y a pas beaucoup de dévots, puis ça lui revient à lui. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est que le dévot est béni. Peut-être qu'il s'en rend pas compte, là, c'est possible. Mais il est béni, à savoir d'être obligé de s'absorber encore plus dans le service de dévotion offert aux déités. Et de cette façon-là, il est plus conscient de ce qu'il fait pour les déités. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services à faire. Puis il peut pas s'en aller non plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé à la Nouvelle-Mayapo à un moment donné. C'est que, wow! Ils m'ont donné plein, plein de services pour les déités. Et puis, t'es occupé du matin au soir. Du matin au soir, j'étais occupé à servir les déités comme ça. Réveiller les déités le matin, où tu te lèves à 3 heures. Prendre ta douche. Réveiller les Murtis, puis à la Nouvelle-Mayapur, c'est à 4 heures. Si ça n'a pas changé, à l'époque où j'étais là, c'était à 4 heures le matin, le Mangalarti. Ensuite, il y a le petit déjeuner qu'il faut cuisiner. Ça, je le faisais pas, mais j'avais au moins 3 artis par jour à faire. Le matin, 4 heures à 4 heures. Le midi, puis le dernier artis à 9 heures le soir. Ça, j'avais ces artis-là à faire. Et cuisiner, et puis tu chantes tes tours, tu t'occupes de tes affaires. C'était quelque chose. Et puis là, ben tu te rends compte que c'est ça que ça veut dire, être absorbé dans la conscience de Krishna, c'est que t'as pas le temps de penser à d'autres choses que le service qui t'a été demandé de faire. Et puis ça, c'est avec l'adoration des déités qu'on s'en rend compte. Là, quand tu es sur l'autel, tu peux pas avoir la tête ailleurs non plus, là. Tu sais, t'es avec les déités, là. Alors, les déités, comme à la Nouvelle-Mayapur, ils ont 3 autels. Quand j'étais là, il y avait juste 2 autels qui avaient des déités dessus, mais celle du centre avec Radha et Krishna, Radha Madhava, n'était pas là encore. L'autel était là, mais pas les Murtis. C'était pas installé encore. Et là, quand tu as la responsabilité justement de réveiller les déités, ensuite d'habiller les déités, tout de suite après le Mangalarti, là, c'est baigner les déités, habiller les déités. Mais tout ça, c'est du lait, qu'à telle heure, c'est juste ça que t'as comme temps. C'est, mettons, à une nouvelle manière pas, à cette époque-là, je pense que c'était 7h15 le matin, bang! Prêt, pas prêt, on ouvre les rideaux, alors rangez-vous comme vous voudrez, l'autre bord des rideaux. Il faut finir. Et ça passe tellement vite, habiller les déités, s'occuper des déités, que c'est comme si tu manques toujours de temps avant que justement arrive l'ouverture des rideaux. Et c'est à tous les matins, c'est comme ça. Et il y a d'autres dévots ou dévotes. D'habitude, c'est des dévotes qui font ça. Ils font les guirlandes pour les déités. Alors, à un moment donné, quand t'as habillé les déités, etc., etc., faut-tu mettre des guirlandes aux déités? Puis ensuite, tu mets les turbans ou les casques. En tout cas, ça se fait. Chacun a son rôle à jouer. Et c'est bien comme ça. Et dans un autre emploi du temps, ça se passe, t'as pas cette on peut dire c'est de la pression. C'est une façon de le voir, mais t'as pas cette obligation, tu n'as pas ce service-là. C'est plus, il y a pas, je vais appeler ça de la pression. C'est la pression dans le service de dévotion, c'est correct, là. Des fois, il y en a. Alors, tu l'as pas, ça. Alors, là, à ce moment-là, tu peux avoir une certaine petite idée que la gratification des sens n'a pas sa place dans le service de dévotion. Et puis, il n'y a pas de tentation non plus. Plus que ça, à moins vraiment que tu ailles la tête ailleurs. Et ça, c'est toujours possible. Mais si t'es vraiment absorbé dans ton service, c'est pas ce qu'on appelle de la duplicité, t'es correct. Tu vas être bien conscient de Krishna, bien conscient de Krishna. Et puis ça, c'est Prabhupada qui nous a donné ça. L'adoration des déités, justement, pour purifier le mental et devenir vraiment conscient de Krishna, ça fait partie du service de dévotion. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. On va continuer. Virginie, veux-tu continuer, s'il vous plaît?
Srimad Bhagavatam 2.2.6 nous instruit de servir l'âme suprême. Ceci dépasse de loin la méditation yogique non désintéressée, accrochée à convoiter des pouvoirs surnaturels. Bref, le vrai yoga, le yoga pur, affranchi de toute forme d'égoïsme, aboutit à la pure bhakti, la voie du service de dévotion pure. Voici donc le verset du Bhagavatam 2.2.6 en question.
Pense à la traduction, si tu veux, d'un coup.
Ainsi établi, il faut servir l'âme suprême, sise dans le cœur par l'effet de son omnipotence. Parce qu'elle est Dieu, le Tout-Puissant, éternel et sans limite, elle représente le but de l'existence. L'adorer supprime la cause même du conditionnement des êtres vivants. Teneur et portée. La Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 61, enseigne que Shri Krishna, le Seigneur souverain, est l'omniprésente âme suprême. Il incombe donc au yogi de l'adorer, car lui seul représente la réalité et non l'illusion. Chaque être vivant œuvre au service de quelqu'un. C'est en effet la condition naturelle, originelle et éternelle de tout être distinct que de servir. Mais dans l'atmosphère de Maya ou l'illusion, l'âme ainsi conditionnée cherche à servir cette même énergie illusoire à travers son corps temporaire, ceux qui lui sont liés comme la femme, les enfants et tout ce qui gravite autour d'eux, l'argent, le foyer, les relations, la patrie, tout en ignorant qu'il s'agit là d'une pure illusion. Comme nous l'avons maintes fois expliqué, l'univers matériel est en lui-même illusoire, comme un mirage dans le désert. Il se trouve parfois des phénomènes optiques produisant l'illusion d'une nappe d'eau. Et les bêtes, trompées par ces mirages,
Les bêtes, excusez.
se précipitent dans l'espoir de trouver de l'eau là où il n'y a que du sable. Mais ira-t-on conclure que l'eau n'existe pas parce qu'il ne s'en trouve point dans les déserts? Tout homme intelligent sait fort bien que l'eau existe, mais ailleurs, dans les mers et les océans, et que c'est là qu'il faut aller la chercher. Nous recherchons tous le bonheur réel, vie éternelle, savoir illimité, bonheur parfait. Mais les sots qui ignorent tout de la réalité permanente la recherchent au cœur même de l'illusion. Le corps matériel ne connaît pas d'existence éternelle. Et tout ce qui s'y rattache comme l'épouse, les enfants, les relations et la patrie devra changer lorsqu'il y aura transmigration dans un nouveau corps. Tel est le samsara, la répétition des morts et des renaissances. Certes, nous aimerions tous résoudre les problèmes de l'existence, mais nous ignorons comment y parvenir. On recommande ici à quiconque souhaite mettre fin aux souffrances de l'existence, soit naissance, maladie, vieillesse et mort répétée, d'adopter la voie de l'adoration exclusive du Seigneur suprême, comme le propose en outre la Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 65. Si nous désirons un tant soit peu éliminer la cause de notre existence conditionnée, il faut alors nous vouer à l'adoration de Sri Krishna, présent dans le cœur de chacun par la force de l'affection naturelle qu'il nourrit à l'égard de tous les êtres distincts. En fait, c'est partie intégrante. Bhagavad Gita, chapitre 18, verset 61. L'enfant qui reste auprès de sa mère éprouve pour elle un attrait bien naturel, et de même la mère pour son enfant. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit et se voit emporté par les circonstances de la vie, il se détache progressivement de sa mère, bien que celle-ci s'attende toujours à ce que l'enfant devenu grand lui réponde affectueusement à travers quelques services et qu'elle ressente toujours la même affection pour lui malgré son indifférence. Pareillement, puisque nous faisons partie intégrante du Seigneur, celui-ci nous manifeste éternellement son amour et essaie sans cesse de nous ramener à lui, en notre demeure originelle. Mais de par le conditionnement qui nous rive à la matière, nous restons insensibles à ses appels et continuons à poursuivre le mirage des relations qui unissent les corps. Il faut donc s'arracher au rapport illusoire de ce monde et chercher plutôt à s'unir au Seigneur en essayant de le servir, lui, la vérité souveraine. À vrai dire, nous cherchons à sa présence comme l'enfant cherche sa mère, mais pour trouver Dieu, la personne suprême, il est inutile d'aller bien loin, car c'est en notre cœur qu'il se trouve. Toutefois, ceci ne signifie aucunement que l'on devrait éviter les lieux de culte comme les temples, les églises ou les mosquées. Le Seigneur, par la force de son omniprésence, habite également ces lieux saints qui, pour la masse des hommes, s'offrent comme centre d'études pour la science de Dieu. Lorsqu'aucune activité n'anime les lieux de culte, la généralité des hommes s'en désintéresse et ainsi sombre peu à peu vers l'athéisme jusqu'à former une société sans Dieu. Pareille société infernale se crée toujours plus de besoins artificiels jusqu'à rendre la vie intolérable pour tous. Les dirigeants irresponsables d'une civilisation athée échafaudent de divers stratagèmes visant à instaurer la paix et la prospérité sous l'étiquette du matérialisme. Mais parce que de telles initiatives s'avèrent purement illusoires, le peuple, mécontent, accorde ses suffrages à des dirigeants aveugles et incompétents qui se succèdent les uns aux autres dans leur impuissance à résoudre quoi que ce soit. Si nous désirons un tant soit peu mettre un terme à l'infirmité d'une société sans Dieu, il nous faut suivre les divers principes énoncés dans les Écritures révélées, tels le Srimad Bhagavatam, et s'attacher à l'enseignement d'un être qui, à l'image de Sri Shukadev Goswami, n'a aucune motivation matérielle.
Pierre, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'est le but de la vie, c'est d'essayer sans cesse de penser, de servir à Krishna, de penser à Krishna et de servir à Krishna.
Oui, effectivement. Alors, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, quelqu'un qui a la connaissance. Mais Krishna dit, quand est-ce qu'il a la connaissance? Après de nombreuses naissances et morts. L'homme sage qui me connaît, en vérité, va réaliser que, en fait, Vasudeva ou Krishna est tout. Et la cause de toutes les causes. Alors ça, c'est la base du service de dévotion. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset où le Seigneur Krishna dit au Seigneur Brahma que sache que si l'on voit quelque chose qui est séparé de moi, c'est mon énergie illusoire. Alors, c'est ça la beauté de la conscience de Krishna, c'est que de toujours être capable de faire le lien avec Krishna, de n'importe quoi, toujours voir le lien avec Krishna. Allez, comme Madhavananda le dit assez souvent, que tout est Krishna. Alors, c'est l'énergie de Krishna, c'est Krishna lui-même ou son énergie. Et dans ce sens-là, l'énergie et la source énergétique ne sont pas différents. Alors, pour un dévot, il doit avoir cette vision-là. Mais pour un dévot à qui manque cette vision-là, que cette vision n'est pas mature, à ce moment-là, il va être obligé de penser en termes de dualité. À savoir, ça c'est conscient Krishna, ça c'est pas conscient Krishna. Et ainsi de suite. Alors, un dévot qui est à ce stage-là, est baigne dans une certaine détresse qui n'est pas dite parce qu'il fait toujours la différence entre ça c'est le matériel et ça c'est le spirituel. Mais ça, si on ne l'a pas lu encore, on va le lire aujourd'hui, je pense. En fait, même l'énergie, Prabhupada, il écrit là, c'est écrit en quelque part dans le cahier. En fait, rien n'est donc, en ce qui concerne le matériel, ce n'est pas matériel parce que tout est spirituel, parce qu'il y a une relation avec Krishna. Alors, c'est juste que cette énergie-là, l'énergie matérielle, ben, il faut savoir l'utiliser au service de Krishna. Là, à ce moment-là, l'énergie redevient spiritualisée. Alors, l'énergie matérielle, elle est, mettons, créée et fournie par Krishna aux âmes conditionnées pour servir leur désir d'une existence sans Dieu, comme si Krishna n'existait pas. Mais pour Krishna, il n'est pas question de ne pas exister parce que certaines âmes rebelles, disons, s'amusent à penser que Dieu n'existe pas ou croient que Dieu n'existe pas. Et ça c'est vraiment l'illusion. Et même, comme on vient de lire aujourd'hui, là, même pour les yogis, qu'est-ce qu'on a lu tantôt pour les yogis?
Les pouvoirs naturels, et voilà. Parce qu'en fait, faut le vrai yoga, c'est le bhakti yoga, les autres yogas, c'est pas des vrais yogas.
Ouais.
C'est le yoga qui amène à des pouvoirs ou à des facultés particulières, mais.
Ouais. Alors, c'est dit ici à la page 17, à la ligne 26, c'est le 1, 2, 3, troisième paragraphe. C'est dit, ceci dépasse de loin la méditation yogique non désintéressé, accroché à convoiter des pouvoirs surnaturels. Bref, le vrai yoga, le yoga pur, affranchi de toute forme d'égoïsme, aboutit à la pure bhakti, la voie du service de dévotion pure. Alors là, on parle du verset du Srimad Bhagavatam 2.2.6. Alors, le service de dévotion... Oui.
Je crois que j'ai quelqu'un, je m'excuse.
OK. Correct. C'est beau. Alors, Ananda, tu es là?
Oui, bravo, je suis là. Pas de souci, j'écoute.
Alors, comment on peut dire? Ah, c'est ça. Service de dévotion, j'ai perdu mon idée, là, mais... Service de dévotion englobe tout. Et c'est parfait comme ça. Alors, un dévot Et graduellement, à force de servir Krishna, il va réaliser justement qu'il n'y a rien d'autre à faire dans la vie à tout moment. C'est de penser à Krishna, comme on a déjà dit souvent, écouter ce qui a trait à Krishna, parler de Krishna, se souvenir de Krishna et faire des services pour Krishna, dont, entre autres, c'est une des 9 méthodes du service de dévotion, l'adoration des déités, des murtis, et puis un dévot heureux comme ça. Et le dévot, ultimement, en bout de ligne, il retourne à Krishna, il retourne dans le monde spirituel, continuer dans les activités de dévotion, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que ça, définitivement, par constitution. Et soit on sert Krishna, soit on ne sert pas Krishna. Si on ne sert pas Krishna, on est mis dans l'oubli de Krishna et l'énergie matérielle peut nous faire n'importe quoi. Des fois, c'est soi-disant vertueux, des fois, c'est dans la passion, des fois, c'est dans l'ignorance, mais on devient surmonté par l'influence des 3 gunas de la nature matérielle. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est très difficile de surmonter l'influence des 3 gunas, sauf si on s'abandonne à Krishna. Ça, c'est la condition, comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, alors on va continuer. Ananda, voudrais-tu lire?
Oui.
S'il vous plaît, merci.
Avec plaisir. Finalement, en sachant que l'âme suprême est une émanation de Krishna, source de tout ce qui est, que reste-t-il de plus à faire sinon l'adorer de tout son cœur, ce que confirme d'ailleurs la Bhagavad Gita 10.8. Je passe à la traduction directement?
Oui, vas-y, s'il vous plaît.
Des mondes spirituels et matériels, je suis la source, de moi tout émane. Les sages qui connaissent parfaitement cette vérité me servent et m'adorent de tout leur cœur. Teneur et portée. L'érudit pleinement versé dans l'étude des Védas, qui a reçu son enseignement d'autorité tel que Sri Chaitanya, et sait l'appliquer, est à même de comprendre que Krishna est l'origine de tout ce qui est dans les mondes matériels et spirituels. Cette parfaite connaissance lui permet de se fixer dans le service du Seigneur suprême, et ni les sots, ni les commentaires les plus absurdes, aussi nombreux soient-ils, ne peuvent l'égarer. Tous les écrits védiques s'accordent sur le fait que Krishna est la source de Brahma, de Shiva et des autres Devas. Dans l'Atharva Veda, Gopala Tapani Upanishad 1.24, il est dit « Yo Brahmanam Vidadati Purvam Yovai Vedam Cha Gapayati Sma Krishna ». Au début de la création, Krishna transmet à Brahma le savoir védique. C'est aussi lui qui, de tout temps, le dissémina de par le monde. Dans le Narayana Upanishad 1, on peut lire Ata Purushyo Avai Narayano Kamayata Praja Sri Jayeti. Narayana, la personne suprême, désirera alors créer les êtres. Puis, Narayanad Brahma Dhyayate Narayanad Praja Pati, Prajayate, Narayanad, Indro Jayate, Narayanad, Asto, Vasavo, Jayante, Narayanad, Ekadasha, Rudra, Jayante, Narayanad, Dvada, Saha, Ditaya. Ha. Narayan donne naissance à Brahma et au patriarche, mais aussi à Indra, aux 8 Vasu, aux 11 Rudras et aux 12 Aditya. Narayan est une émanation de Krishna. Toujours dans le Narayan Upanishad 4, il est écrit Brahmanyo Devaki Putra. Le fils de Devaki, Krishna, est la personne suprême. Et dans le Maha Upanishad 1.2, Eko Vai Narayan Ashinna Brahma Nesano Napo Nagni Somo Neme Diva
Diav,
merci. Apritivi Na Nakshya Trani Na Surya. Au début de la création, seul était Narayan, la personne suprême. Ni Brahma, ni Shiva, ni l'eau, ni le feu, la lune, les cieux, la terre, les étoiles ou le soleil n'existaient. La Mahupanishad dit aussi que Shiva est né du front du Seigneur suprême. C'est pourquoi les Védas déclarent que l'unique objet d'adoration est le Seigneur suprême, le créateur de Brahma et de Shiva. Krishna lui-même affirme dans le Moksha Dharma, une des sections du Mahabharata, traduction, je suis celui qui a créé les patriarches Shiva et les autres, mais ils l'ignorent parce qu'ils sont illusionnés par mon énergie externe. Et le Varaha Purana d'ajouter, Narayan est Dieu, la personne suprême. Il donne naissance à Brahma, lequel crée Shiva. Source de toute la création, Krishna est la cause efficiente de toute chose. Je suis l'origine de tout, car tout est né de moi. Tout m'est subordonné et nul ne m'est supérieur. Il n'est pas de maître suprême autre que Krishna. Celui qui comprend le Seigneur à la lumière des Écritures, à l'aide d'un maître spirituel authentique, emploie toute son énergie dans la conscience de Krishna et devient un véritable érudit. En comparaison, ceux qui ne connaissent pas Krishna dans toute sa splendeur ne sont que des sots, car seul un sot peut prendre Krishna pour un homme ordinaire. Le dévot ne doit jamais se laisser abuser par l'un ou l'autre de ses ignorants. Il doit éviter de lire tout commentaire ou interprétation non autorisée de la Bhagavad Gita et doit poursuivre son action dans la conscience de Krishna avec fermeté et détermination. Jai. Je continue?
Oui, continue un petit bout encore.
Parfait. Répétons-le, l'action dans la conscience de Krishna se doit d'être ferme et déterminée. Tel est le propre d'un disciple. Qui dit disciple dit discipline. L'armée en est un exemple. Parfois un dévot est dit être un soldat du Seigneur. On est tenté ici de faire une comparaison avec une machine dont tous les boulons doivent nécessairement être bien serrés afin d'en assurer la bonne démarche. Sinon, il y aura un problème de performance. De la même manière, un dévot se doit d'être ferme dans sa conscience de Krishna, sinon Maya saura profiter de la moindre faiblesse de cœur. À vrai dire, le Bhakti Yoga a beaucoup à voir avec les convictions profondes dans le cœur d'une personne. Toutes les décisions d'engagement dans la conscience de Krishna sont initiées depuis le cœur. Il faut savoir ce que l'on fait, ce que l'on doit faire et pourquoi. Srila Rupa Goswami recommande en premier lieu dans son Upadeshamrita 3 l'enthousiasme, la conviction et la patience. En passant, la conviction et la ferme détermination vont de pair. Voici donc le verset en question.
Jai, merci. Jai. On va arrêter ça là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, ce qui ressort vraiment pour moi, c'est qu'il faut être ferme en fait. Il faut être ferme et déterminé dans sa conviction.
Exactement. Et ça ne. Comment on peut dire?
La nonchalance n'a pas sa place dans la dévotion à Dieu en fait.
Ouais. Mais ça peut être là. Quand quelqu'un, justement, manque de vigilance.
C'est ça.
Et par conditionnement matériel. Et faut pas se faire d'illusions. On a été conditionné pendant des millions d'années, là. Comme la Bhagavad Gita dit, Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il y a toujours un roulement des trois gunas de la nature matérielle. Alors, parfois, c'est la vertu qui l'emporte sur la passion de l'ignorance, et parfois, c'est la passion qui l'emporte, et d'autres fois, c'est l'ignorance qui l'emporte sur les deux autres. C'est toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? C'est pourquoi, disons, on dit dans le service de dévotion, il y a deux genres de bhakti. Il y en a une, c'est une bhakti réglée selon des principes régulateurs. Et l'autre, c'est la bhakti spontanée qui est le propre, justement, des purs dévots de Krishna. Et où est-ce que ça mène tout ça? Ça mène justement la culmination de la perfection de la conscience de Krishna. C'est arriver à ce que nous soit révélée notre relation éternelle avec Krishna. Alors, il y a cinq relations directes avec Krishna. Il y en a une de être serviteur de Krishna, être ami de, ou une relation neutre, une relation de serviteur, une relation amicale, une relation parentale ou une relation conjugale, en rapport avec Krishna. Alors, c'est révélé à un dévot lorsque le dévot devient un pur dévot de Krishna. Un dévot n'est pas fait pour rester éternellement un dévot néophyte. Il n'y a pas de mal comme tel à être un dévot néophyte. Faut pas se faire de complexe avec ça, là. Il faut pas non plus, contempler l'idée. Quand est-ce que je ne serai plus un néophyte? Ça peut aider un petit peu, mais les choses vont s'emboîter les unes après les autres. Par la grâce de Krishna, c'est la récompense de servir Krishna, simplement. Et ça, les dévots peuvent le voir chez d'autres dévots. Alors, comme, mettons, on est un dévot, puis on a aidé quelqu'un à devenir un dévot. C'est sûr qu'on va avoir une certaine affection pour ce dévot-là, parce que on a été un instrument pour le faire venir à la conscience de Krishna. Et on va observer avec le temps comment cette personne-là change, comment elle devient une meilleure personne, un meilleur dévot. Et on est content on est content de ça. Alors, quand on vit dans un temple, on a l'opportunité de voir justement ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on apprécie les dévots, parce que les dévots vont jamais, même s'ils ont certaines imperfections, ils vont pas rester toujours comme ils sont. Ils sont appelés à s'améliorer par la force même du service de dévotion. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et c'est la grâce de Krishna. Alors, les dévots, on apprécie les autres dévots. Et on espère que les autres dévots nous apprécient aussi. En général, c'est réciproque, là. Et tout est beau, tout va bien. Et puis, un dévot, même s'il n'a pas atteint la perfection à 100%, il n'y a rien qui est perdu. Tout le progrès qu'il pourrait avoir accompli, ça va le suivre dans sa prochaine vie. Alors, comme Prabhupada dit, le futur d'un dévot est très brillant. Mais le futur de quelqu'un d'autre, c'est pas si brillant que ça. Parce que justement, il est empêtré dans les lois du karma qui veulent que les sujets à la au bonheur et la détresse qui viennent avec le karma, et en particulier avec le vi-karma. Le vi-karma veut dire des activités coupables, des activités répréhensibles. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'une personne va souffrir pour ses activités pécheresses? Comme Prabhupada l'explique, dans la vie humaine, l'être humain est responsable de ses actes. Mais par comparaison avec un animal, une forme de vie qui n'est pas humaine, ces êtres-là subissent leur karma. Et il n'y a pas de faute pour eux autres. Mais pour l'être humain, lui, il est tenu responsable de tous ses actes. Alors, il y a des conséquences à ses actions. Et comment il peut échapper aux conséquences de ses actions? La question est posée.
En devenant un pur dévot de Krishna, en servant le maître spirituel qui nous
Oui,
permet de devenir un pur dévot de Krishna.
tout ça c'est bon, mais spécifiquement, techniquement.
En chantant les saints noms.
Oui,
En
mais
s'abandonnant à Krishna.
c'est ça la réponse. En s'abandonnant à Krishna.
OK.
C'est la réponse. Alors, en s'abandonnant à Krishna, tout le reste va suivre. Servir Krishna, chanter les saints noms. Tout s'ensuit, mais ça demande l'abandon à Krishna. C'est comme, par exemple, quelqu'un peut recevoir la philosophie de la conscience de Krishna, mais ne pas arriver à s'abandonner entièrement à Krishna. C'est quoi le problème? On va pas donner de réponse à ça, là. C'est individuel, ça, ces choses-là. Il n'y a pas de réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que s'abandonner à Krishna, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on délaisse ce qui fait obstacle à notre conscience de Krishna, puis on accepte qu'est-ce qui fait qu'on va devenir conscient de Krishna ou qu'on est conscient de Krishna, simplement. C'est très pratique, ça. C'est pas juste théorique. Alors, comme par exemple, je vais donner un exemple fictif. Vous êtes déjà allé au temple de Montréal. Vous savez où est situé le temple de Montréal. Ben,
Oui.
juste en haut, à la rue Sherbrooke, il y a le stade olympique. Et à une certaine époque, il y avait du baseball qui se jouait au stade olympique. Il y avait une équipe de baseball qui s'appelait les Expos de Montréal. Alors, timing pour timing. À 19h le soir, soit tu vas aller voir le baseball, il y a un match de baseball. Mais à 19h, il y a un artiste au Temple de Montréal. Il y a juste 20 minutes de distance entre les deux. Ça dépend qu'est-ce que la personne veut. Les dévots, à l'époque, quand il y avait le baseball au stade olympique, en tout cas les dévotes surtout, elles allaient vendre des fleurs ou vendre des trucs pour faire ramasser des dons pour le temple. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'ai déjà vu ça. Ça affluait. C'est comme le métro de Montréal, parce que c'est une station de métro qui est là, station Pie-Neuf. Beaucoup, beaucoup, des milliers de personnes. Surtout si un joute de baseball, ça vient à chaque rame de métro qui rentre, tout ce beau monde-là, c'est la rame qui s'en vient au stade. Et puis, les dévots, dévotes, les dévotes surtout, étaient bonnes là-dedans. Elle faisait de la levée de fonds, si on peut dire, pour le temple. Et juste en bas de la rue, on peut dire. Alors, deux genres de conscience complètement différents, mais alors, on peut voir justement une différence dans la conscience des gens et être conscient de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK, on va continuer. On t'est rendu où donc? Si on a lu. OK, Utsahan. Bon. Alors, là, on va lire le verset de Upadeshamrita. C'est le troisième. Et justement, c'est un mantra dans lequel l'enthousiasme est d'une importance capitale pour le service de dévotion. En d'autres mots, si on est pour servir Krishna, vaut mieux pas le faire à moitié. Vaut mieux s'arranger pour réfléchir pour le peu qu'on soit intelligent, mais le faire avec enthousiasme. Voilà. Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Donc je lis directement le verset en question.
Ouais. Page 21, ligne 14.
Ok, mais
15.
je lis pas le sanskrit ici.
Non, vas-y, lis le
Ok.
sanskrit.
Six principes sont propres à l'accomplissement du service de dévotion pure. 1. L'enthousiasme. 2. La conviction. 3. La patience. 4. L'adhérence aux principes régulateurs tels l'écoute, le chant et le souvenir des gloires de Krishna. Shravanam, Kirtanam, Vishnus, Smaranam. 5. Le rejet de la compagnie des Abhakta. Et 6. Le fait de marcher sur les traces des grands Acharyas. Ces principes assurent sans nul doute leur observant de sa réussite totale dans l'exercice du pur service dévotionnel. Il s'agit d'un programme complet à suivre pour la vie. Il y a matière à se tenir occupé 24 heures par jour dans le service de dévotion. Est-ce possible de suivre ces principes à la lettre pour tout le monde? Pour tous ceux et celles qui ne se sentiraient pas à la hauteur, c'est libre à chacun de suivre ces recommandations dans la mesure de ses capacités, selon les circonstances où il ou elle se trouve. Chose certaine, malgré les obstacles externes qui pourraient être présents, c'est dans le cœur que ça se passe en termes d'aspiration sincère de suivre ces principes. Il n'y a pas d'obstacle dans l'esprit d'un pur dévot. Donnons l'exemple de Vasudeva lors de l'avènement de Krishna. Lorsque Vasudeva, que l'on nomme également Anakadumbuti, contemplait le nouveau-né, il éprouvait une joie telle qu'en lui brûlait le désir de faire au Brahmana le don charitable de milliers de vaches. Selon l'usage védique, lorsque dans le palais d'un roi kshatriya se célèbre une heureuse cérémonie, le souverain offre en charité de nombreuses richesses. Les Brahmanas et les sages reçoivent alors des vaches ornées de parures d'or. Vasudeva désirait accomplir de telles cérémonies, se livrer à de tels actes charitables, mais la prison et les chaînes de Kamsa rendait la chose impossible. Il n'en offrit pas moins des milliers de vaches aux Brahmanas dans son mental. Les grands acharyas ont toujours su enseigner le service de dévotion selon temps, circonstances et individus. La pratique elle-même suit ces mêmes règles. Toute l'inspiration nécessaire est fondée sur le chant sincère du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
C'est des questions ou des commentaires? Alors, l'exemple de Vasudev. Alors, disons, je fais juste une petite observation, là. Le mot Vasudeva, qu'on lit, là. Ça, c'est le nom du père de Krishna. Il n'y a pas de petite barre sur le premier A. Mais quand c'est écrit Vasudev, mais avec la barre sur le premier A, ça c'est Krishna. Vasudeva. Alors, Vasudev, c'est comme ça qu'on devrait le prononcer, là. Vasudev. Alors, le A sans barre, c'est A. Alors, Vasudeva, contrairement à Vasudeva. Vasudeva, c'est Krishna. Juste ça. C'est...
Vasudeva. Vasudeva.
Ouais. Vasudeva, c'est Krishna.
C'est
Mais
Krishna.
Vasudeva,
C'est...
Vasudeva, c'est le père de Krishna.
Vasudeva.
Alors lui, Vasudeva, quand Krishna est né, où est-ce qu'il était, Vasudeva?
Il était dans les prisons de Kamsa.
Exactement. Alors, il y a cet enfant-là, juste à le regarder, même sans que Krishna soit né, lorsqu'il était dans le ventre de
Devaki.
Devaki, tout le monde pouvait voir que Devaki était d'une beauté exceptionnelle, et l'enfant n'était même pas né encore. Alors, quand Krishna est né, il est d'une beauté. C'est sûr, Krishna est le plus beau, infiniment beau. Alors, imaginez, en général, les enfants sont toujours beaux, à moins qu'ils soient vraiment nés à la naissance, là, mais en général, les enfants sont beaux. Et alors, que faut-il dire de Krishna, qui est Dieu, la personne suprême, qui est beau de tout le temps, tout le temps. Alors, ça devait être vraiment quelque chose. Alors, Vasudeva voulait faire des dons. Il voulait suivre la tradition védique, donner des vaches, donner des présents aux brahmanas. Mais il pouvait pas le faire. Parce qu'il était enchaîné dans la prison de Kamsa. Alors, Krishna a arrangé le tout que par Yoga Maya. Il a ordonné à Yogamaya, « OK, fais-moi un service, là. Tu vas me libérer. Arrange ça pour que Vasudeva amène chez Nanda Maharaj Krishna. » Et là, Krishna. Et après, Vasudeva est revenu. Kamsa était vraiment très méchant à l'égard de Vasudeva et Devaki. Et Krishna va lui régler son compte en temps et lieu. Quand Krishna va avoir 16 ans, la première chose qu'il va faire, c'est aller dans l'arène et puis mettre à mort comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
C'est quand même fou d'imaginer que les frères et sœurs de Krishna, entre guillemets, ceux qui sont arrivés avant, parce que Vasudeva et Devaki étaient des grands êtres, des grandes âmes qui avaient, justement pour avoir la possibilité d'avoir Krishna comme enfant, avaient
Ouais.
fait de grandes austérités, et qu'ils subissent cette méchanceté de front comme ça, où les enfants qui sont nés avant étaient jetés par terre, étaient tués,
Ouais.
c'est à la limite inimaginable en fait de se dire la souffrance et en même temps le détachement que ces âmes, ces grandes âmes, parce que c'est pour être parent de Krishna, il faut être une grande âme, ont subi en fait malgré qu'ils étaient de grandes âmes.
Oui, disons, les purs dévots de Krishna dans les divertissements de Krishna passent par des épreuves qui sont hors du commun. Comme les Pandavas étaient dans la forêt et Duryodhana et compagnie et Dhritarashtra ont comploté mille et une fois pour exterminer les Pandavas parce qu'ils voulaient avoir le royaume. Et par la grâce de Krishna, les Pandavas ont été protégés. Et Draupadi, la mère, Draupadi, c'est la femme des Pandavas, mais Kunti, la mère des Pandavas et les Pandavas ont été protégés par la grâce de Krishna. Alors, comme Krishna dit, jamais mon dévot ne périra, mais ça veut pas dire que jamais mon dévot n'aura de difficultés. C'est pas ça que ça veut dire, là. Des fois, le dévot peut être en sérieuse difficulté, mais parce qu'il est conscient de Krishna, il est capable de passer à travers. Et c'est... Le dévot, lui, est abandonné à Krishna, là. Et après tout, pour un dévot, une philosophie de base, on n'est pas ce corps. On est une âme spirituelle. Et avec cette philosophie-là, tu peux passer à travers beaucoup, beaucoup de choses qui, pour une personne ordinaire, sont très difficiles à surmonter. Comme ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? OK, on va passer à l'autre. On va en faire un bout, en tout cas. Ananda, s'il vous plaît.
1.6. Puis il en réalise l'aspect ultime, Bhagavan. En bonne compagnie, sous la directive d'un maître spirituel authentique, la voie de la réalisation spirituelle permet d'atteindre la plus haute perfection. À force d'être sur la bonne voie, on peut bien sûr envisager d'arriver au but ultime, ce que confirme d'ailleurs la Bhagavad Gita 7.19. Après de nombreuses morts et renaissances, l'homme au vrai savoir s'abandonne à moi, parce qu'il sait que je suis la cause de toutes les causes et tout ce qui est. Une si grande âme est infiniment rare. Teneur et portée. Après de nombreuses vies, l'homme vient à la pratique du service de dévotion et de rites spirituels, grâce auxquels il atteint la connaissance transcendantale pure et voit Dieu, la personne suprême, comme le but ultime de la réalisation spirituelle. Au début, le néophyte, luttant pour se défaire de ses attaches matérielles, a tendance à se tourner vers l'impersonnalisme, mais en progressant, il comprend qu'il existe aussi des activités au niveau spirituel, lesquelles constituent le service de dévotion. Dès lors, il commence à s'attacher à l'aspect personnel du Seigneur suprême, puis finalement s'en remettre entièrement à lui. Il réalise alors qu'il n'y a rien de plus important que la miséricorde de Krishna, que Krishna est la cause de toutes les causes et que l'univers matériel n'a aucune indépendance. Il comprend que ce monde n'est qu'un reflet perverti de la diversité spirituelle et que tout est lié au Seigneur suprême. Il voit tout en relation avec Vasudeva, Krishna, et cette vision universelle le projette vers le but ultime, l'abandon total au Seigneur suprême Krishna. Mais une si grande âme est infiniment rare. Ce verset est expliqué dans le troisième chapitre de la Svetasvatara Upanishad 14.14-15. Le Seigneur Vishnu possède des milliers de têtes, des yeux par milliers et des milliers de pieds. Englobant complètement l'univers, il s'étend encore bien au-delà. Il est en fait cet univers dans son entier. Il est tout ce qui a été et tout ce qui sera. Il est le Seigneur de l'immortalité et de tous ceux qui se nourrissent. Il est dit aussi dans la Chandogya Upanishad 5.1.15, Na vai vacho na kakshumsi na strotrani na manam siti akshakshate prana iti evakshate prano hi evaitani sarvani bhavanti. Dans le corps se trouve le pouvoir de parler, de voir, d'entendre, de penser même, mais ce pouvoir ne constitue pas le facteur primordial. C'est la vie qui est au centre de toute activité. De même, Vasudeva, Krishna, la divine personne, est l'être primordial qui est au centre de tout. Les facultés du corps, c'est-à-dire parler, voir, entendre, penser, etc., n'ont aucune valeur si elles ne sont pas reliées au Seigneur suprême. Parce que Vasudeva est omniprésent et parce que tout est Vasudeva, le dévot s'abandonne à lui en toute connaissance. Bhagavad Gita 7.17 et 11.40.
Jai, merci.
Jai.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, la conclusion, la connaissance, comme c'est dit là ici, c'est la conclusion de la Bhagavad Gita. Vasudeva Sarvamiti, c'est dans le verset, qui veut dire que Krishna est tout, la personne suprême. Krishna est tout. Et c'est l'énergie de Krishna de tout bord, de tout côté. Et faut être aveugle pour ne pas le voir. Et malheureusement, on voit pas toujours non plus. Mais à force d'écouter et d'entendre souvent les descriptions qui ont trait à Krishna, justement, qui disent que Krishna est tout ce qui existe. Et tout ce qui existe, c'est l'énergie de Krishna. On va finir par comprendre, on va finir par voir notre vision spirituelle se développer et on devient attaché à cette vision-là. Et en temps et lieu, on peut constater jusqu'à quel point on a un attachement pour la vision spirituelle dans la mesure où on devient désintéressé par des sujets qui n'ont pas trait à Krishna. Et ça, c'est donc, comment on peut dire, c'est le test de notre attachement pour Krishna. Dans quelle mesure on est attaché à Krishna, mais dans quelle mesure on est aussi détaché de ce qui n'a pas, de ce qui ne semble pas avoir de lien direct avec Krishna, comme tel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. On va mettre ça ici. Et puis, demain, on va avoir notre petite réunion là pour le travail, pour le Chaitanya Charitamrita.
Parfait. C'était bien à 8 heures pour votre heure, hein?
Ouais, à 8 heures pour l'heure de Montréal.
C'est ça. Parfait.
Ouais, d'accord. Ben, merci beaucoup.
Merci, Prabhu.
On se réunit demain encore.
À demain matin, par la grâce de Dieu.
Allez, ouais, bon. C'est ça. Envoie les supports plus tard ou on fait
demain,
ça?
Eric.
Je vais l'envoyer aujourd'hui même.
Voilà, qu'on ait le temps de regarder un petit peu parce que...
Ouais, je vais l'envoyer dans très, très bientôt. On finit le cours, je vais regarder. J'ai déjà préparé, mais je veux juste m'assurer encore une fois de ce que j'ai préparé. Je vous l'envoie. Et puis, c'est ça, là.
Parfait, merci Prabhu. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
À demain.
À demain.
Au niveau des cours, comme on a dit, on se retrouve le 1er août.
Oui, c'est ça, je voulais le dire. C'est ça, Ananda n'était pas là, je pense, mais... Donc, dernier cours de Ishopanishad. Et puis, on va se donner une pause pour le mois de juillet. Et le prochain cours, ce sera le 1er août.
Mais les mercredis, on continue ou c'est fini aussi?
Attends une minute. C'est une bonne question. je pense qu'il va falloir prendre une petite pause aussi là-dedans parce que il faut que je regarde. Attends une minute. Où je regarde l'emploi du temps, ouais, le mercredi.
Mais sinon, tu peux faire une annonce sur le site ou comme ça on le verra.
Ouais.
Si jamais.
Ouais. On va prendre une pause. Ouais, on va prendre une pause. Ouais, on ne fera pas les mercredis. On prend une pause pour le vrai, là. Puis on recommence le 1er août. Et puis, moi, sûrement, je vais faire d'autres choses qui ont trait au cours ou au livre, quelque chose comme ça. Mais on va prendre une pause parce que il y a Ratayatra Montréal, ensuite Ratayatra Toronto, il y a des chances qu'on aille à Toronto pour le Ratayatra. Alors, on sera pas à Montréal, mais, en tout cas, on prend une pause.
Parfait.
On prend une pause pour le mois de juillet, on recommence le 1er août.
Mais il faudrait que, j'espère que pour Madame Ananda, qu'elle soit au courant, en fait.
Ben, c'est ça, l'annonce sur le site. Comme
oui,
ça,
on va
le
l'annoncer sur le site, justement. On va l'annoncer sur le site. Alors, lui, s'il a une chance, il va écouter le cours d'aujourd'hui, là. Puis, ça va déjà être dit dans le cours, mais on prendra pas de chance. Nous, on
au
va
cas
l'annoncer.
Vous voulez le mettre, ouais.
On va le mettre sur le site, comme tel.
Ouais. Parfait.
Merci beaucoup, Prabhu.
Voilà.
À demain.
Merci, Prabhu. À demain.
À demain. Hare Bol.
Hare Krishna. Hare Bol.
Hare Krishna. Bonne journée. Hare Bol.
Avec Krishna. Hare Krishna.
Jai. Hare Bol. Jai.